Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Assises nationales de la refondation, quelles conséquences sur la transition? C'est le thème central de notre grand dialogue de ce soir. Les assises nationales de la refondation prévues entre le 22 novembre et le 6 décembre 2021 ont été décalées à une date ultérieure. L'annonce a été faite hier mardi. Selon le gouvernement, ce report vise à trouver un consensus plus large entre toutes les forces vives de la nation pour une participation inclusive. Il précise par ailleurs qu'un nouveau chronogramme sera annoncé à l'issue des concertations en cours. Quelles sont les raisons de ce report? Ce report a-t-il des conséquences sur la durée de la transition? Permettra-t-il d'avoir une inclusivité autour de ces concertations? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons fait appel à quatre personnes. Nouhum Togo, du parti ISR, Hamidou Dembia, du parti Yelema, Dr Ibrahima Sango, de la Synergie 22, une organisation de la société civile, Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nouhum Togo, la première question sera adressée à vous.
Merci.
Ce report est-il une bonne chose?
Je pense pour le consensus, je pense réellement pour l'intérêt de notre pays, pour que nous puissions aller avec beaucoup d'autres acteurs politiques qui n'ont pas voulu souscrire dans cette logique de la dynamique d'échange pour que nous puissions avoir un peu la paix, nous permettra de travailler avec les uns et les autres. Comme vous savez, dès au départ, il y a certains partis politiques qui n'ont pas voulu prendre part. Il s'agit de l'ADEMA, il s'agit de nos amis MPM, il s'agit d'autres, de l'USRDA, aujourd'hui qui ont rejoint le groupe, et nous continuons à élargir à travers les panels des responsables nommés qui doivent continuer à prendre le relais et continuer à travailler. Et vous savez aussi l'aspect sécurité, à ce stade, sur les 703 communes, il y a 500 et quelques communes où nous sommes aujourd'hui, où nous pouvons au moins organiser les assises. Il y a l'administration qui est en train de faire la cartographie, travailler pour que nous puissions, si ce n'est pas possible, d'organiser dans la commune de Dialassago, ils peuvent décaler pour qu'on organise au moins au niveau des bancasses. C'est ce travail d'organisation que l'administration est en train de faire. Nous pensons, avec tout ça réuni, nous pouvons travailler pour relever le défi d'abord de l'adhésion et la mobilisation en aspect sécurité.
Hamidou Doumbia du parti Yelema, comment comprendre que la classe politique continue d'être divisée sur cette question?
Ok, je vous remercie. La classe politique, c'était prévisible qu'il y ait quand même une division sur la question. Parce que depuis la déclaration du plan d'action du gouvernement, il y a une partie de la classe politique qui a pensé que ce n'était pas opportun d'organiser des assises nationales de la refondation, dont le nôtre, le parti Yelema, parce que nous avons jugé nécessaire que notre pays a organisé plusieurs forats et que le diagnostic de la situation malienne était déjà fait et qu'il était plus important et plus pragmatique de travailler à faire une synthèse de ces différentes recommandations. Le diagnostic du malade était fait, maintenant il s'agissait de le soigner. Mais revenir encore en faire le diagnostic, si tu ne fais pas attention, le patient risque de mourir. Donc aujourd'hui, le Mali étant malade, pour nous, ce qui était le plus important, c'était de travailler à le soigner, parce que le diagnostic est déjà fait. Et comment on fait pour le soigner? C'est les recommandations faites par la commission d'ABA sur les questions de réforme politique et institutionnelle. Comment le soigner? C'est les recommandations du dialogue national inclusif qu'il fallait mettre en œuvre. Comment le soigner? C'est les états généraux de la santé. C'est les réformes sur les questions de santé qu'il fallait mettre en place, qui a fait l'objet de réflexion. C'est les états généraux de la santé, c'est les états généraux de la décentralisation, c'est les états généraux de la corruption qui ont tous diagnostiqué le malade Mali. Il s'agissait tout simplement de le soigner. Donc si au début d'un processus, une partie trouve inopportun l'organisation de tel événement, il est tout à fait normal que c'est difficile de pouvoir avoir une convergence de vues. Il y a eu cette difficulté lors du dialogue national inclusif. Certains n'ont pas participé parce qu'ils avaient des réserves. Donc à chaque organisation de ce genre, il y a toujours des réserves. Maintenant, il s'agit pour les autorités de convaincre de la pertinence de l'exercice, de travailler à convaincre les uns et les autres sur leur bonne foi et surtout sur leur volonté de rassembler et de sortir le Mali de la crise. Donc pour moi, l'enjeu majeur, les prochains jours, c'est cela, c'est de convaincre. Et quand les gens ne sont pas convaincus, il faut travailler à convaincre. Je pense que c'est ce qui peut être l'exercice pour les autorités. Mais cela ne peut pas se faire avec des propos va-t-en-guerre, mais ça se fera tout simplement avec des messages clairs, des messages d'apaisement, des messages qui montrent que les autorités ont à cœur de vouloir rassembler. Mais si on continue à traiter certains d'une certaine manière, ça va être difficile de rassembler tout le monde, pas seulement sur les assises, mais nous avons besoin quand même d'un rassemblement sur plusieurs questions de la nation.
Docteur Ibrahima Sango, les raisons avancées par le gouvernement, un consensus plus large pour une participation inclusive, sont-elles valables aujourd'hui?
Absolument, cela est valable parce que nous, en tant que Synergie 22 des organisations de la société civile, on a déjà fait deux déclarations, le 6 novembre et puis le 20 novembre, pour appeler au consensus politique. Parce que quand on veut aller à des assises comme ça, des assises nationales de la refondation, il faut rassembler le maximum de personnes. Et ce qui est le plus important, c'est le côté des partis politiques. Aujourd'hui, quand on prend les 10 grands partis politiques, c'est la majorité n'est pas d'accord pour qu'on aille aux assises nationales de la refondation. Et cela pose problème. Et ces 10 grands partis politiques, on l'a établi sur la base de l'aide que les partis politiques ont reçue de 2001 à 2018. Et cela fait qu'il y a 10 grands partis politiques qui existent en République du Mali, qui ont participé aux élections, qui ont des députés, qui ont eu des députés, qui ont eu des conseillers partout et qui détiennent le pouvoir local. Donc si ces 10 grands partis politiques, il y a la majorité qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour aller aux assises, cela pose problème. Et nous avons toujours appelé le gouvernement à faire un consensus. Parce que ce qui se pose aujourd'hui comme question, c'est qu'il reste 4 mois pour finir la transition. Les assises nationales de la refondation sont perçues par ceux qui refusent d'y adhérer comme une volonté de prolongation de la transition. D'ailleurs, même le calendrier électoral, le gouvernement a dit qu'ils vont le déterminer après les assises nationales de la refondation. Ce qu'il faut rappeler à ce niveau, c'est que c'est le deuxième report. Le premier report est intervenu en octobre parce que les assises étaient prévues octobre-novembre. Maintenant, on dit novembre-décembre. Et c'est un deuxième report qui va nous conduire peut-être en janvier. Et le danger, c'est de lier cela au calendrier électoral. Aujourd'hui, on doit savoir quand est-ce que la transition va prendre fin. Et parce que pour réussir les réformes, il faut un consensus politique. Tant qu'il n'y a pas un large consensus politique entre les acteurs politiques, la société civile, les autorités de la transition, on ne pourra pas aller de l'avant. Et c'est le panel des hautes personnalités qui a pris sur lui aujourd'hui de reporter les assises pour avoir l'inclusivité nécessaire. Et cela est très important. Sans l'inclusivité, on ne peut pas réussir les réformes en profondeur. Et c'est notre appel. Et aujourd'hui, la Synergie 22 se réjouit du fait que son appel du 6 novembre et du 20 novembre ont été suivis par les autorités pour dire qu'il faut reporter. Tant qu'il n'y a pas un large consensus entre toutes les parties, on ne peut pas arriver à des réformes majeures dans le pays, surtout au vu du délai récent de la transition. Et même si on doit prolonger la transition, cela doit faire l'objet d'un consensus. Tant qu'il n'y a pas un consensus national porté par tous les acteurs, on ne peut pas sortir de cette crise.
Hamidou Cheikh Oumar Doumbia, comment parvenir à ce large consensus? Déjà, les gens sont partagés sur la question. À l'heure actuelle, comment arriver à ce large consensus-là?
Une première façon serait d'effacer en fait le politique du premier plan. Le politique qu'est le Premier ministre aujourd'hui n'est pas en mesure d'y arriver. Et si on le remplace par un autre politique, tous ceux qui sont avec lui vont automatiquement aller dans la position actuelle de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, une façon très simple d'arriver à ce consensus, c'est de mettre en place un collège d'experts qui va piloter ces travaux-là, si on veut y arriver. La preuve, elle est toute simple. Lorsque le panel est arrivé, la situation a automatiquement changé. Maintenant, le Premier ministre n'était plus l'interlocuteur numéro un dans les échanges. C'est le panel qui est devenu l'interlocuteur. Et les autres politiques sont beaucoup plus à l'aise à discuter avec un acteur qu'ils voient comme neutre, n'est pas en train de protéger une position quelconque, que de discuter avec quelqu'un dont ils ont une connaissance de sa position et de sa façon d'opérer. Donc ça fait un bon moment qu'on est en train de dire que oui, les politiques doivent participer, mais pour une transition, pour qu'une transition soit saine, les acteurs politiques ça a toujours été dit, qu'ils aillent préparer les élections et que des experts puissent prendre certains rôles pendant cette courte période. Et je pense que ça fonctionnerait. Ça vient d'être prouvé grâce au panel et on a remercié le ciel parce qu'on avait l'impression que ce message ne se faisait pas comprendre. Ça avait été vu comme une certaine forme d'une volonté d'effacer l'homme politique de son rôle. Ce n'est pas ça le cas. La vérité est que partout où on a vu des transitions réussies, il a fallu réellement que des hommes qui viennent prendre la destinée du pays pendant ce temps sans avoir aucune appartenance, aucune affiliation. Parce qu'en politique, c'est la quête du pouvoir et les appartenances et les affiliations vont toujours causer des difficultés. Autre chose qui va nous amener à ça, je pense que Amidou a touché au point, c'est aussi le langage. La politique est une question de perception. C'est comment les gens voient ce qui se passe et comment ils voient les personnes qui portent la situation. Donc, en réalité, le Premier ministre actuel et bon nombre de ses alliés se sont lancés dans une démarche qui consistait à dire, je vais citer Nuntogo, hein, ceux qui ne sont pas à la table ne sont qu'une minorité. Donc les partis politiques absents étaient qualifiés de minorité, étaient qualifiés de ne pas avoir assez de poids. Lorsque nous souhaitons discuter avec quelqu'un et que nous voulons l'avoir à la table, quelle que soit la coutume ou la philosophie ou même la religion que nous suivons, nous savons qu'il faut s'adresser à cette personne avec un minimum de respect et de considération. Donc le respect et la considération doivent revenir dans le dialogue politique et c'est ce qui va permettre à la diversité d'exister. Donc si on ne considère pas les gens qui sont d'un avis différent comme il se doit, ils vont continuer à résister et il y aura continuellement ce bloc-là. Maintenant, dans un aspect politico-politique réel de la chose, voici ce qui se fait. Les gens refusent de voir ça, mais aujourd'hui, il y a une minorité qui est au pouvoir, politiquement parlant. C'est une minorité qui dirige le jeu politique, c'est-à-dire la minorité qui a été longtemps peut-être transgressée même par les plus forts en matière de politique, c'est-à-dire les grands partis qui ont un mécanisme, qui ont dominé la vie politique. Donc ceux-là ont réussi à s'accaparer du pouvoir à travers ce coup d'État-là, et cette minorité ne veut pas prendre le risque de donner l'opportunité à ces anciens ténors-là de revenir se positionner sur l'échiquier. C'est une peur qui existe, mais c'est une peur qu'il va falloir surmonter, il va falloir prendre le courage à deux mains que Choguel accepte de discuter avec des Tretas, avec des Ibanjaï de l'IRD. Ces discussions-là vont devoir se faire et ils vont devoir tomber d'accord pour pouvoir réellement conduire ces échanges.
Et s'agissant toujours de cette participation inclusive, est-ce que ce report permettra de tenir ces assises nationales de la refondation sur l'ensemble du territoire?
Le report a deux effets. Premier effet, c'est un effet qui va parler d'une certaine incompétence, une certaine incapacité à tenir le délai. Le docteur Sango l'a dit, c'est la deuxième fois. Moi, je dis que c'est la troisième fois. Troisième, pourquoi? Parce que dans le programme d'action gouvernementale du Premier ministre lui-même, la tenue des assises était fixée à septembre. Il a manqué ce délai. Donc, on a élargi le délai, on l'a rendu flexible. On a dit, entre octobre et novembre encore, on a manqué à ce délai encore. Et voilà, encore une fois, ce délai de quoi? Novembre, décembre va être manqué encore une fois. Donc, c'est le troisième report. Et le premier message que ça envoie, et à la fois à celui qui analyse et à la fois aux partenaires du Mali, c'est de dire, nous sommes dans l'incapacité d'organiser ces assises-là. Nous n'arrivons pas en six mois, en quatre mois à converger simplement les organisations politiques. Donc si on ne peut pas amener les organisations politiques à la table, comment amener 20 millions de Maliens à la table? Donc ça, c'est une première question qui vient automatiquement, c'est est-ce que cette gouvernance, cette équipe gouvernementale est capable réellement d'amener le Malien à se rassembler et de conduire à cette paix que nous cherchons tous? Seconde chose qui va être positive peut-être, c'est de donner l'occasion à certains acteurs de se faire une place à cette table. Et cette occasion-là, la saisiront qui le peut, mais aujourd'hui, saisir cette occasion est aussi associé à accepter que la transition soit prolongée. Parce que c'est la communication qui a créé en fait ce danger-là. C'est de dire que non, la durée de la transition va dépendre des assises. Donc automatiquement, tous ceux qui sont dans cet état d'esprit de « nous ne voulons pas que la transition soit prolongée » se disent « mais si nous sommes dans la salle et que nous sommes une minorité, nous serions cautionneurs du fait que la transition va être prolongée ». Donc il y a eu un énorme déficit de communication politique de la part des gouvernants sur des questions qui n'étaient même pas nécessaires d'aborder, mais qui ont été abordées à tout bout de champ et en désordre, et ça a tué la démarche politique sur toutes ses formes. Et je pense un dernier point qui va être extrêmement crucial pendant cette période de report, c'est qu'est-ce qui va se passer au prochain sommet de la CEDEAO.
D'ici le prochain sommet de la CEDEAO, on va faire réagir le représentant du parti ELEMA. Qu'est-ce qui fait que vous ne soutenez pas la tenue de ces assises là aujourd'hui?
Oui, bon, je pense que lors de ma première prise de parole, j'ai assez développé, mais d'abord je vais revenir à la répétition étant pédagogique.
Concrètement, qu'est-ce qui fait que nous trouvons
les assises inopportunes et budgétivores. Inopportunes parce que j'ai dit, tu sais, tantôt, que nous n'avons pas encore besoin de faire le diagnostic du Mali. Le malade est connu, la maladie est connue. Il s'agit de soigner. Les réformes ne peuvent pas défendre du dialogue des assises. Nous sommes sûrs qu'on ne va pas tomber sur des recommandations qui n'ont pas été déjà formulées. Et par
mais comment
Dabba
soigner
Diawara,
s'il n'y a pas une attente autour de la question?
Il y a déjà le malade, c'est parce qu'on a évoqué les assises qu'il y a eu toutes ces discussions. Mais si on n'avait pas évoqué les assises et qu'on prenait le rapport de la commission Dabba Diawara qui a parlé des réformes institutionnelles et politiques, dont les pertinences n'ont jamais été contestées. Vous pensez qu'il y aurait eu de problème aujourd'hui? Le président de la transition, lorsqu'il prêtait serment, lorsque Wagé prenait la parole pour la première fois à la télévision nationale, il a dit qu'il allait appliquer les recommandations du dialogue national inclusif. Il n'y a pas eu de contestation. Parce que les recommandations du dialogue, même ceux qui n'y ont pas participé, ont pris acte, étaient d'accord que les recommandations qui étaient sorties de là et reflétait ce que le peuple demandait. Les Maliens demandaient, par exemple, la relecture de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Ça ne faisait plus objet de discussion. Tous les Maliens étaient d'accord. Mais en prenant aujourd'hui les termes de référence des assises de la refondation, on parle de réappropriation par rapport à l'accord. Ça veut dire que ce que le dialogue a eu comme acquis, qui est la relecture, aujourd'hui, cet acquis est à côté. Et dans les assises, on va se réapproprier. Ça veut dire que la relecture n'est plus à l'ordre du jour.
Pour vous, c'est une perte de temps.
C'est une perte de temps. On pouvait bien évidemment avancer. Aujourd'hui, dans le plan d'action du gouvernement, novembre devait trouver que le nouveau projet de constitution était sur la table du gouvernement. Nous sommes à la fin du mois de novembre, ça n'a pas été le cas. C'est un retard. La charte des partis politiques. On avait travaillé sur la charte des partis politiques avec le gouvernement Mokhtar Wane. Il y avait eu des réformes majeures dans cette charte-là qui allaient nous permettre de diminuer considérablement le nombre des partis politiques. Qu'est-ce qui en a été fait lorsque le Premier ministre est venu? Il a mis tout simplement dans les tiroirs. On avait travaillé sur la loi électorale. On n'avait pas besoin d'assises. Les réformes étaient là sur ces questions. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il est venu, il l'a mis dans les tiroirs. On a parlé de proportionnel, de le mettre dans la nouvelle constitution. On n'avait pas besoin de faire des assises. Ça, c'est une réforme majeure qui fait une unanimité au sein de la classe politique. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a mis ça dans les tiroirs. Aujourd'hui, le mois de novembre devait trouver que l'organe unique de gestion, si je m'en tiens au plan d'action du gouvernement présenté au CNT, novembre devait trouver qu'il avait mis en place son organe unique de gestion des élections, qui aussi est une recommandation du dialogue national inclusif. Mais à ce jour, rien n'a été fait. Nous sommes en retard sur ces questions. Donc, si il n'avait pas jeté tout ce que son prédécesseur avait fait, on aurait pu avancer. Un. Et deux, s'il n'avait pas fait focus, assise nationale de la refondation, aujourd'hui, on aurait trouvé qu'on a pu poser les bases de la refondation et on était en avance. Donc pour nous, le fait qu'on organise des assises, ça va nous mettre en retard. Ça, c'est un. Et deux, ça nous fait dépenser 2,5 milliards si on s'en tient au plan d'action du gouvernement. Donc ce qui est aussi une difficulté majeure pour nous. Et aujourd'hui, il faut le dire, le chronogramme des élections que le Premier ministre est en train d'associer aux assises nationales, c'est un problème d'abord éminemment politique, c'est un problème technique dont les propositions doivent émaner d'abord du gouvernement et validées par le cadre de concertation avec les partis politiques. Et ce cadre de concertation, si aujourd'hui on en parle, ça a été mis à côté, ce cadre n'existe plus. Donc ce qui est important, on a eu l'impression qu'il y a eu une volonté de retarder tout ce qui est réforme pour justifier une prolongation. Sinon, si tu mouilles le maillot, on voit que tu mouilles réellement le maillot. À 90 minutes, les gens peuvent dire prolongeons. Mais si toi, tu mets le maillot à côté et que tu t'assois, tu ne sues même pas, mais les gens vont tout simplement dire que tu as fait exprès de te mettre en retard et ne pas laisser les gens avancer. Donc pour nous aujourd'hui, nous avons raté une occasion d'aller rapidement et de faire des réformes majeures. Par exemple, je vous donne l'exemple. On nous sort toujours les résultats des élections législatives. Alors que le problème n'était pas l'administration territoriale. Le problème, c'était la Cour constitutionnelle. Mais en modifiant tout simplement l'article 50 de la loi portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle, on allait ôter à la Cour constitutionnelle la possibilité de renverser les résultats. Ce genre de réforme, ça ne prend pas 2 mois. Mais on nous met en retard, on n'a rien tenté par rapport à ça. On croise les droits. Non, on veut le Malikroi, on va faire les assises. Comme si, s'il n'y a pas d'assises, on ne peut pas poser les fondements d'une refondation. Mais je suis désolé.
Non, Togo, vous venez d'entendre M. Doumbia du Parti ILEMA. Les jalons ne sont pas suffisamment posés. Est-ce que gagnerait le Malien lambda avec ces assises-là?
Mariam, je souhaite répondre. Il est bon qu'on arrive à rectifier.
Non, Togo, pas de jeu de ping-pong.
Non, pas de jeu de ping-pong. Ils sont 2 Doumbia qui ont eu 22 minutes. Je n'ai eu que 3 minutes.
Non, Togo, je ne vous ai pas...
Non, 2 Doumbia...
Je ne vous ai pas coupé la parole.
Non, le peuple jugera. Les 2 Doumbia ont eu 22 minutes.
Je
ne
vous ai pas coupé la parole. Vous avez
donc,
parlé,
je
vous
préfère
êtes
répondre. Je préfère
donc,
répondre.
Donc, allez-y. J'espère que je vais dire
aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de dire Doumbia, du élément, que ce soit le dialogue national, l'affaire Daba, on ne les fera pas dans nos chambres ou dans nos antichambres. Il faut que les gens se retrouvent pour discuter. Nous avons voulu que les gens se retrouvent pour discuter. Vous avez remarqué, le politicien, je ne sais pas, le monsieur qui a été appelé comme modérateur, il est plus que politique, avec des attaques virulentes contre l'État, contre la position politique et les hommes politiques, et pour ma personne même. Mais je ne réponds pas parce qu'il est plus politique. Parce
vous que avez déjà reconnu le taureau. Revenons à la question. Qui gagnerait le Malien lambda avec ces assises-là aujourd'hui?
Les Maliens vont gagner beaucoup de choses.
Lesquelles?
Ils vont gagner beaucoup de choses d'abord en termes de sécurité nationale et en termes de cohésion sociale. Pour nous, la politique, c'est de gérer les problèmes de la nation. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation où les Maliens ne se parlent pas. Ceux qui étaient avec le pouvoir en place, où ils sont tombés avec le pouvoir, pensent qu'ils doivent nous dicter les directives. Nous sommes arrivés au niveau du M5 avec un programme. C'est sur la base de ce programme que nous avons fait partie Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, quelqu'un doit venir nous dicter leur vision en nous disant parce qu'ils sont politiques. Nous refusons d'accepter ce principe. Nous pensons que le consensus se dégage parce que nous avons une façon d'orienter, d'organiser l'organisation de notre pays. Parce que le pouvoir a été d'abord sué, un pouvoir où il y a eu la corruption, un pouvoir où il y a eu des hommes de façon clanique qui ont géré le pays et qui ont mis le pays à terre. Tous ceux qui ont contribué à ça, c'est pour cela que je dis souvent, j'apprécie la façon où aujourd'hui la Guinée est en train de gérer. Si on faisait comme la Guinée, beaucoup d'entre eux ne vont pas parler. J'ai dit à Sango aussi, dire que la majorité ne sont pas avec nous, il y a seulement 3 partis qui ont reçu les 18 milliards de l'État malien qui ont bouffé. Et ces partis politiques-là, il y a Sadi, il y a Kodem, il y a, comment il s'appelle, le MPM. Sinon, tous les autres, Yéléman, donc, comme vous connaissez sa position, n'a jamais combattu avec nous. Ils sont toujours centristes. Ils regardent la direction, là où le vent va, donc ils se tournent vers là-bas. Et on les connaît, donc comme ils le savent. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, le peuple malien attend de nous, depuis la localité à Bankassa, Koro, d'organiser les assises, revenir faire la synthèse et donner des directives pour l'organisation et la réorganisation de notre territoire national. Si les gens pensent qu'en politique, c'est devenu crier parce que pour dire que d'autres ne veulent pas discuter avec d'autres, mais ceux qui ont mis le pays à genoux, vous pensez que vous allez nous pousser à discuter avec eux? Nous refusons. Pour nous, la discussion, c'est quoi? Si c'est pour l'intérêt supérieur de la... Aujourd'hui, tout ce qui crie, parce que d'autres n'ont pas eu de poste de responsabilité. Il faut qu'ils comprennent. Parce que d'autres ont eu 4 fois, 5 fois, ils ont été ministres de la République. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas à manger.
Comme
le premier n'a jamais été. Comme je t'ai dit, tu es plus qu'un opposant.
Monsieur,
il est important que tu prennes...
Non,
il est important qu'il prenne sa position parce que le peuple malien juge. Parce que c'est des jeunes, donc analystes opposants.
Pas de jeu
qui
de
pensent, non, qui pensent réellement qu'ils
on
vont nous déstabiliser.
Le peuple a besoin de
je
comprendre
dis,
également.
Nous avons fait 32 ans de combat du mouvement démocratique et nous suivons. Ceux qui sont en train de crier aujourd'hui, ceux qui crient partout, en disant il faut leur combat, c'est sur ce gueule. Leur combat, ce n'est pas le Mali. Tout le monde sait aujourd'hui que ça avance à merveille. Et que tout le monde sait aujourd'hui que ça bouge. Mais si d'autres pensent, parce qu'eux, ils ne sont pas là-dedans, c'est à eux de nous donner des directives, c'est à eux de nous dire qu'il faut faire comme ça. S'ils pouvaient, le moment où vous étiez avec Ibrahim Boubacar, il fallait créer les conditions pour essayer de nous proposer d'autres Mali. Il y a eu un Mali de la corruption, un Mali de chantage, un Mali de détournement, un Mali de sabotage, un Mali dans les questions bâclées. C'est ce qu'on a vu en tant qu'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous pensons aujourd'hui, si nous voulons aller avec le peuple malien, c'est d'aller débattre avec tout le monde. Dire désormais aux gens de Bankas, de Koro, comment ils doivent être sécurisés. C'est à eux de nous proposer. Le Mali d'hier n'est pas le Mali d'aujourd'hui, parce que la situation évolue. Il faut que les uns et les autres comprennent que ce travail se fera avec tout le monde, ce n'est pas avec vous, ceux qui ont fait tomber le régime et ceux qui ont fait humilier les Maliens. Et si vous venez, si vous souhaitez venir avec nous, venez. Parce que le problème, c'est que nous avons donné la possibilité, comme ils ne le savent pas, nous avons donné la possibilité, effectivement, à ces 100 personnalités qui ont été choisies avec honneur et dignité et que tous les Maliens lambda se reconnaissent en eux. Aujourd'hui, c'est eux qui sont l'interface entre le gouvernement et les peuples maliens. Et ils sont en train d'organiser, ils ont demandé le report. Oui, nous sommes d'accord sur ce principe de report pour que les Maliens lambda qui veulent venir, les vrais Maliens qui veulent venir, ceux qui pensent qu'on va laver leurs tuchis, ceux qui pensent qu'ils sont sales, parce qu'ils sont pas, ils font pas honneur aux Maliens, ils peuvent rester à côté et le Mali se fera sans eux.
Merci beaucoup, Nountoué. Docteur Ibrahima Sango, vous venez de l'entendre. Le Mali avance, les choses bougent. Et êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que avec ce report-là, c'est uniquement une stratégie pour la transition, disons, pour proroger la durée de la transition?
Bon, pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, les assises sont toujours nécessaires. Il n'y a pas d'assises de trop. Mais on est ici dans le domaine de la démocratie. Et en démocratie, il y a des lois, il y a des règlements. Et il y a des normes internationales, des instruments juridiques internationaux qui définissent comment on doit aller. Et si on peut rappeler un peu le premier conseil des ministres du président Assimi, il a fixé 5 missions, la sécurité, les réformes politiques institutionnelles. Et pour les réformes politiques institutionnelles, on n'a pas besoin de faire des assises. Et ça, c'était un travail d'expert, comme l'a dit Doumbia. C'est un travail d'expert. Et ce travail a été déjà fait, identifié. On sait qu'est-ce qui pose problème. Si je prends un exemple, la loi qu'aujourd'hui qu'on est en train de modifier pour mettre en place l'organe unique de gestion des élections, l'EGE, mais cette loi ne va pas nous amener loin. Pourquoi? Parce que si on veut créer un organe unique de gestion des élections, nous on a participé à l'avant-projet de l'atelier de l'avant-projet, un organe unique qui va prendre les attributions du ministère de l'administration territoriale, de la CENI, de la DGE, et même une partie des prérogatives de la Cour constitutionnelle, il faut obligatoirement relire en même temps des textes connexes. Et les textes connexes, c'est quoi? C'est la Constitution, c'est la loi organique de la Cour constitutionnelle, c'est la charte des partis politiques, c'est la loi organique des députés. Et il y a beaucoup de textes qu'on doit relire. Donc, même si on adopte aujourd'hui un projet de loi électorale pour mettre en place l'EGE, qu'on amène ça au CNT, le CNT dit oui, nous sommes d'accord, quand ça va arriver à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va rejeter. Donc c'est pour dire que la démarche même des assises emprunte aussi ce chemin. Aujourd'hui, il reste 4 mois pour la transition. La salle de la transition a dit 18 mois. Il reste 4 mois. En 4 mois, comment faire pour sortir de la transition? C'est ça l'équation. Maintenant, les assises,
est-ce
on peut les tenir.
Cette équation est possible d'être résolue?
Non, techniquement, on peut faire les élections en février-mars. Techniquement, on peut le faire. Avec le statu quo ancien.
Mais avec la mise en place de l'EGE, le collège électoral, tout peut se dérouler en moins de 4 mois?
On peut en 4 mois faire les élections, au moins l'élection présidentielle, et sortir de la transition. Pas avec l'organe unique. Avec l'organe unique, on ne peut pas. Avec l'organe unique, si on veut attendre l'opérationnalisation de l'organe unique, il faut un minimum de 6 mois et un maximum d'une année. Parce qu'on ne peut pas relire la loi électorale seulement et dire qu'on va mettre en place l'organe unique sans relire les autres textes. Imaginez que dans la loi électorale, on dit, oui, l'organe unique va proclamer les résultats définitifs ou bien l'organe unique va prendre en charge les attributions du Comité national de légal et accès aux médias d'État et que cela arrive à la Cour constitutionnelle. Mais il y a la hiérarchie des normes, la Constitution et puis les lois organiques et puis les lois. Maintenant, une loi qui heurte même la Constitution, ça ne va pas prospérer. Ça, c'est sûr. Donc, tout ça, c'est des manœuvres pour dire que la volonté, quelque part, est de prolonger la transition. Et aujourd'hui, là où se trouve le Mali, il y a eu déjà des sanctions. Le 12 décembre, il y aura d'autres sanctions si on ne produit pas un calendrier électoral. Parce que l'erreur aussi du gouvernement, c'est de combiner les assises nationales de refondation et le calendrier électoral. La rue n'a jamais produit un calendrier électoral. C'est le gouvernement qui produit un calendrier électoral. C'est les autorités de la transition qui doivent produire un calendrier électoral. Et d'ici le 12, si on n'avance pas sur ce chemin, on sera sanctionné encore. Et quel type de sanction, personne ne l'imagine pour le moment. Donc, il ne faut pas, à notre avis, ce n'est pas le populisme qui va faire marcher les choses. On est dans des textes. La démocratie, c'est le règne de la loi. La loi dit ça, on doit se conformer. Et les instruments juridiques internationaux qu'on a ratifiés, et le protocole additionnel de la CEDEAO, la Charte africaine de la démocratie, qui sont dans le préambule de la Charte de la transition. Et c'est nous les Maliens qui avons dit, 18 mois, on n'a pas dit, on va faire 3 ans ou 5 ans, 18 mois actés. Maintenant, même si on veut changer la Charte de la transition, les dispositions sont là pour changer. Mais qu'on dise seulement on va changer, mais pas prendre la rue comme argument pour dire non, on attend que la rue se prononce et après on va faire le calendrier électoral. Cela n'est pas possible.
C'est la
rue.
Je suis désolé.
C'est la rue. C'est la rue. Mais donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut un vrai dialogue politique.
S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole.
Il faut un vrai dialogue. Un vrai dialogue et un consensus politique. Si les partis politiques ne sont pas d'accord, on ne peut pas les faire. Si je parle des 10 grands partis politiques, ils sont là. Il y a l'ADEMA.
L'ADEMA est partant.
J'ai pas fini.
Laisse-moi parler. Laissez terminer.
Il y a l'ADEMA, le MPR, le SNIP et l'URD qui sont pour
les assises. Qui n'est pas partant.
Je l'ai dit. Ceux qui ne sont pas partants, c'est le RPM, mm-hmm. le SADI, mm-hmm. et le PARENA, mm-hmm. CODEM, mm-hmm. UDD, mm-hmm. MIRIA. Mm-hmm. Je n'ai pas cité YELEMA. Je n'ai pas cité MALEA, YELEMA. Pardon, je n'ai pas fini. Je n'ai pas cité YELEMA. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas cité d'autres grands partis. Donc, c'est pour dire, même l'ADEMA qui est d'accord. Aujourd'hui, il y a eu un communiqué de l'ADEMA pour justifier la position du Premier ministre.
Oh, ça, c'est le plan d'État.
Ça, c'est un. Deuxièmement, l'ADEMA a été reçu seul par le président de la transition. Après, l'ADEMA a été reçu avec le cadre de concertation. Et qu'est-ce que l'ADEMA porte comme message? Il faut un consensus politique. Tant qu'il n'y a pas un consensus politique, on ne peut pas faire des choses. Et même si on veut prolonger la transition, tant qu'il n'y a pas un consensus politique national, au niveau national, la communauté internationale ne va pas entériner de prolongation de la transition. Donc, aujourd'hui, c'est pour dire la démocratie, c'est le règne de la loi. Maintenant, si vous voulez la dictature, mettez en place la dictature, suspendez la constitution du 25 février, on met en place la dictature, on va. Sinon, le règne de la loi, c'est quoi? Un exemple, c'est les djihadistes. Les djihadistes, quand tu voles une première fois, on te coupe ça. Tu voles une deuxième fois, on te coupe l'autre bras. Donc, c'est ça le règne de la loi. Maintenant, si on est d'accord avec le système démocratique, on doit être d'accord avec les règles de la démocratie. Et on doit connaître les textes. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, c'est ça le grand problème. Les instruments juridiques internationaux sont là. Les gens disent, on sort de la CEDAO, on sort de la Charte africaine, on sort de ceci, cela. Ils ne connaissent même pas ce qui est dans les textes. Il faut lire ce qui est dans les textes et se conformer. On ne peut pas prendre des engagements au niveau national, au niveau international, jurer, prêter serment, et aujourd'hui dire tchou, demain dire tcha, cela n'est pas à l'honneur du Mali. Donc on pense qu'il faut encore un consensus politique pour sortir de cette crise.
Consensus politique pour sortir de cette crise, Cheikh Mor Doumbia, est-ce que le contexte sécuritaire permet même la tenue de ces assises-là partout?
Mais bien sûr. En réalité, la majeure partie des difficultés sécuritaires peuvent être remises dans l'ordre si demain on dit nous allons faire les élections à telle date. Les gens le disent que la sécurité c'est le pire des problèmes. En 2012, lorsqu'on a décidé de faire les élections, nous avons reçu toute l'aide nécessaire pour tenir des élections dans un cadre sécur. Toutes les négociations qui devaient être faites, quelle que soit leur forme, ont été tenues et ont permis à ce que les élections soient tenues. Et que les résultats soient acceptables, parce qu'il n'y a pas d'élection parfaite. Donc, même aujourd'hui, nous pouvons jouer cette même carte. Aujourd'hui, notre plus grande difficulté, ce n'est ni sécuritaire, ni financière, ni même d'ordre institutionnel ou structurel. Notre plus grande difficulté est d'ordre politique. Et il n'y a aucun... On ne peut pas faire un détour. On ne peut pas dire que cette difficulté politique est une question d'homme ou que c'est une question de position ou d'appartenance à tel ou tel groupe. Le souci structurel de la sphère politique n'est nul autre que aujourd'hui, il y a une position pour dire il faut changer ça et il y a une position pour dire nous ne voulons pas changer ça. Et ça, c'est la politique en permanence. Les gens ne seront pas d'accord juste pour être d'accord. Il y aura toujours cette capacité de dire nous ne voulons pas suivre cette démarche et c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc dire aujourd'hui pour entre guillemets adresser le point qu'a cité Noun Togo, entre guillemets rapidement aussi pour dire que en disant il y a des dignitaires qui ont fait tomber le pays avec Ibeka et tout, si nous ne sortons pas de cette réflexion, nous ne pourrons pas faire progresser le pays. Dire que tout le monde est la bienvenue aux assises.
Oui, j'ai compris que vous êtes d'accord sur quelque chose. Le contexte sécuritaire permet de tenir ces assises-là partout dans le pays. Pour nous, au Togo, on peut délocaliser pour les zones moins sûres.
En fait, c'est là où j'allais venir. Ça allait être, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est dire une chose et son contraire à chaque fois. Par exemple, quand on dit que tout le monde peut venir aux assises et qu'on dit par la suite que non, ceux qui ont peut-être participé au régime précédent ne peuvent pas venir. Si on dit encore une fois, qu'on ne peut pas faire des élections sur toute l'étendue du territoire, mais qu'on peut faire des assises sur toute l'étendue du territoire, c'est dire une chose et son contraire. Donc, en réalité, la situation est faite de telle sorte que nous ne pouvons pas mentir pour faire plaisir. Nous ne pouvons pas mentir pour faire plaisir à qui que ce soit. La réalité politique aujourd'hui est que la situation n'est pas prise à bras le corps et que les solutions proposées ne sont pas adéquates. Et si les solutions ne
Merci
sont...
Merci beaucoup, M. Doumbia. Il nous reste à peu près 8 minutes pour clore cette émission. Le temps de faire un dernier tour de table. Je vais commencer par Hamidou Doumbia du parti ILMA. Ce report ne pourrait-il pas compliquer les relations du Mali avec la CEDEAO?
Je ne crois pas. Les relations avec la CEDEAO sont entre les mains de ceux qui gouvernent. Il y a des choses qui leur avaient été demandées. Il y a un chronogramme qui a été demandé. Donc, il faut fournir ce chronogramme et que ce chronogramme soit consensuel. Et moi, ce qui est important, comme j'ai répondu à votre question, faut pas qu'on réinvente l'histoire.
Rapidement.
Ce qui a fait tomber le Mali, c'est la gestion des 30 dernières années. Et la gestion de ces 30 dernières années, M. Noun Togo, vous en faites partie.
Comme toi, comme Yelema.
Shogel Kokala Maïga en fait partie.
S'il vous plaît.
Pour vous dire non.
Les Maliens ont besoin de comprendre.
Les Maliens ont besoin de comprendre.
On a vraiment besoin de comprendre à quoi faut-il s'attendre avec ces assises-là.
Deux minutes. J'ai répondu à votre question. Et le reste que j'ai, c'est de rétablir l'histoire.
Ok.
Et de dire que c'est ces 30 dernières années qui nous ont fait tomber. Et ces 30 ans, je vous dis... Quand vous étiez en train de parler de 91, moi j'avais 4 ans.
Ouais.
Cheikh Oumar n'était pas encore né. Donc votre disque est rayé aujourd'hui.
Bienvenue dans le monde.
Ce qui est important, c'est comment sortir de là.
On le fera.
Et sortir de là, c'est de mettre les Maliens ensemble. C'est de regarder comment est-ce que nous pouvons porter et poser les jalons d'un nouveau Mali. Mais si on s'accuse mutuellement, alors que... Vous êtes comptable au même type que les autres,
nous
ne pouvons
Doumbia.
Pas sortir. Donc aujourd'hui, je vous convie au rassemblement, je vous convie à l'apaisement pour qu'ensemble, on puisse bâtir le
Merci beaucoup, Monsieur Doumbia du parti Yelema Noum Togo. À quoi faut-il s'attendre avec
les assises? Il faut s'attendre avec l'assise, la mobilisation des Maliens. Les Maliens qui croient à l'avenir, qui croient à notre destin. Moi, j'ai peur, en tant qu'ancien responsable du mouvement démocratique, demain, quel Mali je vais laisser à mes enfants. Aujourd'hui, mon combat, c'est de rassembler. Je suis issu des notabilités. Je suis de Bankas. Je suis fils de chef de village. Je connais les difficultés. Ce ne sont pas des gens qui sont nés à quelques kilomètres de Bamako, qui ne connaissent pas donc la crise, qui pensent qu'ils vont nous vilipender et que nous allons accepter le principe. Je l'ai dit, et nous sommes prêts à partir avec tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas de position, qui puissent en tout moment changer, je suis désolé, on ne peut pas aller avec eux. Des hommes politiques qui ne veulent pas s'assumer. Moi, je me suis assumé, ça me fait 34 ans que je m'assume politiquement. Comme lui, il parle, il n'était pas là, je lui donne l'occasion de conclure. Parce que comme lui, il n'était pas là, il ne connaît pas la réalité politique.
Merci beaucoup, Noum Togo. Docteur Ibrahima Sango, ces assises changeront quoi?
Bon, à notre avis, ces assises ne vont rien changer dans l'immédiat. On peut faire des assises pendant 6 mois, pendant une année, c'est pour préparer le Mali de demain. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, par rapport aux autorités de la transition, c'est qu'un chronogramme clair puisse être fixé par rapport aux élections, par rapport même aux assises. Quel est le chronogramme? Il y a eu 3 reports, ça a été rectifié ici au lieu de 2. Aujourd'hui, on a besoin de savoir quand est-ce qu'il faut sortir de la transition. Parce que les autorités de la transition actuelles ne sont pas légitimes. Ils ont la légalité avec eux, mais ils ne sont pas légitimes. Et en matière de démocratie, les autorités doivent être légitimes, légales et légitimes. Donc pour avoir des autorités légitimes, on a besoin de savoir les 4 mois qui restent pour la transition, quand est-ce qu'il y aura les élections et quand est-ce qu'on va sortir de la transition. Merci.
S'il vous plaît, M. Noum Togo, on laisse Ibrahima Sango terminer son argument.
L'Ivoirien n'est pas légitime.
S'il vous plaît, on est au Mali, s'il vous plaît.
Docteur Ibrahima Sangou, allez-y.
Attirer l'attention des autorités encore sur le respect des instruments juridiques internationaux qu'on a ratifiés, qu'on a signés. On a dit on est d'accord. Si on est d'accord, on doit se plier à ça. Et le 12 décembre nous attend. Et avant le 12 décembre, il faut qu'on ait un chronogramme électoral qui va nous projeter sur la fin de la transition. Et pour tous les autres aspects, tant qu'il y a un consensus politique nécessaire pour les assises, pour l'organisme de gestion des élections, on ne pourra pas le faire. Donc, il faut dialoguer, il faut un véritable consensus politique et il faut sortir de la transition. Parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, le pouvoir est aux civils. C'est les civils qui doivent conquérir et exercer le pouvoir politique. Et l'armée doit se mettre au service du pouvoir civil.
Je ne suis pas militaire.
Cheikh Mouar Doumbia, analyste politique, la dernière question sera pour vous. Ces assises changeront quoi?
Pratiquement rien.
Oui, tu as vu? Les trois, la position des trois.
Pratiquement rien.
C'est dommage.
Et c'est lorsque nous parlons lorsque nous parlons du Mali, nous parlons aussi de la position des Maliens. Et au cours de cette assise, la majeure partie des Maliens ne sont pas dans cette optique, c'est le cas. Nous Togo, par respect, veuillez me permettre de terminer.
Nous Togo, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Il ne reste que deux petites minutes, s'il vous plaît.
Mariam, aujourd'hui, il y a une transformation du peuple malien qui est en cours. 75% de la population malienne est jeune, de notre âge. Et aujourd'hui, nous voulons un Mali différent du vôtre, du Mali que vous avez commencé à bâtir en 91, qui a 30 ans et qui n'a pas été ce que nous voulons. Nous ne sommes pas satisfaits de vos résultats et nous voulons les changer. Donc, si nous ne sommes pas satisfaits de vos résultats, nous allons nous battre pour les changer.
Le Mali des réseaux sociaux.
Merci beaucoup.
S'il vous plaît, nous.
Mais nous pouvons aujourd'hui être sûrs d'une chose, c'est que si ces assises viennent, les résultats seront les mêmes choses que le DNI. Et c'est la mise en pratique qui est importante. Nous n'allons pas prier pour le Mali, nous allons travailler pour le Mali, le servir et construire ce Mali-là, et nous allons y arriver tous ensemble. Mariam. Maintenant, nous ne pouvons pas y arriver ensemble sans pour autant que de temps à autre, il y ait de petites divergences. Et si ces divergences, les hommes politiques tant expérimentés de 91 Mariam, n'arrivent pas à les tenir,
Mariam,
nous sommes dans la peur.
Des positions politiques,
merci beaucoup, c'est la fin de cette... Nous, Togo, merci, c'est la fin de cette émission dont le thème central est report des assises nationales de la refondation, quelles conséquences sur la transition. Ils étaient avec nous, Nouhoum Togo du parti USR, Union pour la sauvegarde de la République, Hamidou Doumbia du parti Yelema, Dr Ibrahima Sangou de la Synergie 22, une organisation de la société civile, Cheikh Mouar Doumbia, analyste politique, à la régie... S'il vous plaît, Nouhoum Togo, s'il vous plaît. À la régie son et vidéo, il y avait Nouhoum Djiré et Gani Kanté. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous pour demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.